Donc, tout d'abord, bonjour, merci d'être venu pour cette dernière conférence de la journée. Donc, le sujet aujourd'hui va être l'auto-hébergement. Contrairement à tous les autres conférenciers, moi, j'ai rien à me présenter vis-à-vis de l'association CRANS. Je suis juste un mec qui traînait dans le coin et qu'ils ont invité à parler. Et donc, devant cette très rapide intro, on va rentrer dans le sujet. Donc, contrairement à ce que Michel a dit tout à l'heure, l'auto-hébergement, c'est pas construire un garage pour mettre ses voitures. La définition, c'est fournir soi-même les services qu'on utilise. Alors, je tiens tout de suite à préciser, on ne parle pas du tout d'onanisme ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour les services Internet. Et pour ça, je vais devoir expliquer ce que j'appelle la théorie personnelle des paliers, pour la bonne et simple raison qu'il fallait que je donne un nom à la théorie, donc ça allait très bien. Pour ça, c'est des paliers de délégation. En fait, l'idée, quand vous hébergez un service, c'est soit vous faites le boulot, soit quelqu'un d'autre le fait. Pour ça, j'ai une très bonne comparaison avec la cuisine et les salades. Alors, une salade, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ça. Je tiens à préciser parce qu'il y a des membres du CRANS qui sont présents. Donc, c'est un légume, ça se mange, ça se cultive dans un jardin. Et c'est effectivement la première façon de manger une salade, c'est d'abord de la cultiver dans votre propre jardin, parce qu'on obtient une salade dite du jardin, ce que mes parents n'arrêtaient pas de répéter. Vous pouvez choisir de l'acheter chez le maraîcher. Donc l'acheter chez le maraîcher, ça revient à ne pas juste la cuisiner. Vous pouvez acheter une salade en sachet. Donc la salade est déjà prête. Et vous pouvez la manger dans un restaurant. Donc vous voyez, on a à peu près... Alors là, je tremble un peu, je ne sais pas pourquoi. On a très exactement 4 paliers de différentes délégations. Vous faites votre salade, donc vous la cultivez, ça prend du temps, il faut un jardin. Vous achetez votre salade, vous devez la cuisiner, vous l'achetez en sachet, vous avez juste à la manger, ou vous laissez tout entièrement sous-traité dans un restaurant et vous n'avez rien à faire. Et de la même façon pour l'hébergement. Alors l'hébergement, pour les gens qui savent ce que c'est une salade, en général ça ressemble à ça. Là c'est pareil, vous avez une salade de câble, et vous avez effectivement 4 paliers. Donc le premier palier, c'est de voir sa machine chez soi. Donc, ce qu'à peu près, je pense, la moitié des personnes de l'association font. Vous avez évidemment la machine dans un data center auquel vous n'avez pas accès. Par exemple, les data centers de Free, d'OVH ou d'autres noms comme ça. Vous avez les services qui sont hébergés en votre nom. Par exemple, vous avez acheté un nom de domaine, vous payez Google pour avoir votre nom, enfin pour réutiliser votre nom de domaine. Ou bêtement, pareil, sans le nom de domaine, vous utilisez le service @gmail.com. Et pareil, on voit qu'il y a 4 paliers avec différents niveaux de sous-traitance. Alors toute cette sous-traitance en question, ça va apporter un certain nombre de problématiques que je vais détailler si je ne me suis pas trompé dans mes slides. Donc tout ça tourne autour de l'expression Minitel 2.0. Alors je ne sais pas si tout le monde connaissait Minitel 1.0, parce qu'il y a quand même des gens vachement plus jeunes que moi. Minitel 1.0, c'était un terminal tout ce qu'il y a de plus standard, fait par France Télécom. Un terminal qui est un terminal qu'on qualifie de bête, parce qu'il n'y avait vraiment effectivement aucune intelligence. Il se contente juste d'afficher, il y a un clavier, etc. Et c'était l'ancêtre de l'Internet, comme nous le rappelait notre ancien président. Parce que je ne suis pas encore habitué à voir M. Sarkozy comme président, je pense encore à Jacques Chirac, qui explique que voilà, les boulangers à Paris utilisaient déjà le Minitel, alors que les boulangers à New York n'utilisaient pas encore Internet. Et ça permettait d'accéder à divers services et ce genre de choses. Et l'expression Minitel 2.0 a été popularisée, voire même inventée, par une personne qui s'appelle Benjamin Bayer. Alors si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller voir Augustin là-bas, il va pouvoir vous parler de Benjamin Bayer en long, en large et en détail. Et Benjamin est le président d'une association qui est le premier fournisseur d'accès associatif en France du nom de FDN. Et il a constaté que de nos jours, les gens utilisaient leur PC comme des terminaux passifs pour aller sur Internet, alors qu'au final, normalement, quand on a un accès à Internet, on fait partie de l'Internet, on peut émettre, on peut faire tout un tas de choses. Et ça rend Internet comme un réseau centralisé. Tel que fonctionnait le Minitel, c'était vous vous connectiez à un service. Le seul auquel je peux penser, c'est les services comme 3615 Vula et ce genre de choses, ou pour aller voir les notes du bac. Personnellement, j'ai été voir que les notes du bac avec. Et quand les serveurs étaient tombés, vous n'aviez pas vos notes du bac. Bon, vous attendiez, vous alliez au lycée, ce genre de choses. Et ça, c'est un réseau centralisé extrêmement fragile, avec principalement de la consommation passive. Parce que quand vous alliez voir vos notes du bac, que vous soyez là ou pas là, que vous regardiez ou que vous ne regardiez pas, il n'y a rien. Vous n'agissez pas. contrairement à Internet où c'est un réseau acentré. Un réseau acentré, c'est un réseau qui n'a pas de centre. Et les conséquences sont totalement différentes, c'est-à-dire que si jamais par exemple, on va dire un site web quelconque, le site web du cran se tombe, bah vous pouvez quand même continuer à utiliser votre accès à Internet. Il y a moyen de contourner. Un autre exemple de réseau acentré, c'est le réseau routier. Je pense que cette ville, de temps en temps, fait des travaux dans la rue. Quand il y a un problème sur une rue, qu'est-ce que vous faites? Vous contournez. Ou alors vous attendez, mais bon, vous êtes peut-être une bonne raison. Et voilà, le réseau Internet fonctionne comme ça. Dans le réseau tel qu'on le voit, un réseau centralisé comme le Minitel, quand il y a un problème, c'est coupé. Et tant pis pour les résultats du bac ou autre activité. Alors l'intérêt effectivement d'un réseau centré, c'est la résilience. Donc la résilience aussi bien aux problèmes physiques qu'aux problèmes d'ordre juridique. Je pourrais parler en long, en large et en travers pour occuper les dernières heures qui restent de Wikileaks. Mais pour les gens qui ont suivi, vous avez vu qu'ils se sont fait jeter de Amazon, qu'ils se sont fait jeter de tel ou autre pays et qu'ils sont actuellement hébergés en France. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de centre particulier sur lequel on dit maintenant on ne veut plus de vous. Ils ont réussi à se déplacer. Ils ont réussi à se déplacer, et non seulement ils ont réussi à se déplacer, mais à se multiplier. C'est-à-dire qu'il y a une centaine de copies du site pour une encore plus grande résistance. Il y a aussi des questions d'innovation. Actuellement, comme la plupart des gens, j'imagine que vous connaissez YouTube, voire même Dailymotion, peut-être les autres clones. Et comme YouTube et Dailymotion sont des gros sites qui font beaucoup de trafic, ils arrivent à... il y a des accords... l'un desquels je devrais parler, voilà. Il y a des accords de peering et de transit au sein du réseau pour négocier la bande passante. Alors ça, c'est un point que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la bande passante n'est pas gratuite. Votre fournisseur d'accès, en général, ne la fait pas payer au kilo-octet, même si j'en connais certains qui le font, dans des pays où il n'y a pas de gouvernement, comme la Belgique, des choses comme ça. Mais en général, vous n'êtes pas facturé. A contrario, YouTube, Dailymotion, c'est des débits qui se chiffrent de l'ordre du giga par seconde. Et là, ça commence à être important. Et donc, ils sont obligés de négocier. C'est-à-dire, ils vont voir France Télécom, leur dire, voilà, on ne vous fait pas payer le trafic et vous ne nous faites pas payer le trafic qui vient vers nous. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va interdire l'accès à vos abonnés, on va vous faire facturer ça plus cher, etc. Donc on s'aperçoit que des boîtes qui centralisent les vidéos ou autres activités consommatrices de ressources, mais j'ai que les vidéos en tête, mais il y a également les fichiers audio, les téléchargements de distribution Linux, tout ce genre d'activités, se retrouvent avec un pouvoir au niveau du réseau par la bande passante qu'ils ont réussi à rassembler. Et donc pour ça, ils sont capables de pouvoir dire à une boîte, maintenant, si vous voulez accéder, vous accédez à nos vidéos, vous devez payer, vous devez ne pas nous facturer ce genre de choses. Et ça bloque l'innovation. Ça bloque l'innovation parce qu'une société qui veut, une petite société qui veut débuter, va se retrouver à devoir faire des accords avec les gros. Et les gros, c'est la loi du plus fort, faut quand même pas déconner. Les gros vont dire, on va pas faire d'accord spécifique pour vous. Si on vous laisse aller maintenant, on va pas pouvoir négocier avec les autres. Et donc, on ne vous prend pas en compte. Pour l'instant, la situation n'est pas arrivée à ce point-là, mais c'est le genre de choses qui peut arriver avec la centralisation. Je pourrais donner l'exemple de France Télécom avant que Free arrive et que l'ARCEP ne mette son nez. Mais j'ai encore appris il y a deux jours que France Télécom ne pouvait pas gérer ses trafics comme ils voulaient, parce que rien qu'avec leur taille, ils pourraient parfaitement couler tous leurs concurrents. Donc le gouvernement français a dit, enfin l'ARCEP, qui n'est pas encore le gouvernement français malgré les efforts... il y a quelques jours du gouvernement, a dit vous ne pouvez pas descendre vos prix trop bas, vous ne pouvez pas les monter trop haut, sinon vous fausseriez la concurrence. Et c'est ce genre de problème qu'on cherche à éviter avec un réseau acentré. Actuellement, tout passe par France Télécom ou presque en France, et ça pourrait poser problème. Alors les réseaux acentrés, c'est aussi ce qui permet d'avoir du peer-to-peer. Encore une fois, l'exemple de YouTube où tout passe par YouTube, c'est une chose. Mais avant qu'on commence à avoir Adopi et que tout le monde se tourne vers le streaming, les gens utilisaient ByteTorrent, ce qui était bien qu'une catastrophe du point de vue physique au niveau du réseau, permettait de répartir le flux pour partir, par exemple, de Nicolas vers Michel quand il voulait échanger les vidéos des conférences que nous sommes en train de tourner. Au lieu de passer par le site Mega Upload ou ce genre de choses, ce qui au final aurait donné encore une fois plus de pouvoir à Mega Upload. Il y a aussi une question de pérennité au fait de s'héberger soi-même. C'est, prenons un exemple tout bête. Un des exemples, c'est qui connaît Last.fm ? Voilà. Qui est abonné chez Last.fm ? Voilà. Et parmi les abonnés, combien ont été légèrement dépités de voir qu'avant on avait des radios gratuites et puis après, et que maintenant on a des radios gratuites, mais on n'a même plus les radios de ce qu'on a tagué comme étant favori. Voilà, 2, 3. Et effectivement, en ayant décidé de sous-traiter entièrement la partie musicale chez quelqu'un d'autre, on se retrouve dépendant de leur décision. En l'occurrence, les fondateurs de Last.fm ont décidé de couper certaines radios pour des raisons de calcul de licence auprès de la MPA et autres organismes de gestion des musiques. Résultat des courses, qui est-ce qui trinque ? C'est nous. Nous qui sommes les consommateurs. Pareil pour le service Delicious. Alors j'ai pris ces deux exemples parce qu'ils m'ont personnellement affecté, ce qui va me permettre de rajouter un peu d'émotion dans mes histoires. Mais Delicious est un service de gestion de bookmarks viré par Yahoo. Et puis un matin, les bonhommes de Yahoo ils se sont dit « Bon là, on est en train de perdre d'argent, ça ne nous en rapporte pas, on va le fermer. » Bon, bah parfait, résultat des courses, moi j'ai plus de service. Alors le lendemain, la décision a été changée vu que tout le monde sur Internet a protesté. Donc le service n'est pas fermé, il est libéré dans le sens où c'est une autre boîte qui va faire faillite plus tard, qui va s'en occuper. Mais c'est plus Yahoo, ce qui est totalement différent. Il y a aussi une question, encore une fois, de contrôle, qui est liée à celle de tout à l'heure. Si moi j'avais eu le choix de pouvoir contrôler Delicious pour moi, je l'aurais gardé. Parce que la seule personne qui en a besoin pour moi, c'est moi. Le choix est vite fait. Il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on fait des données. Tout ce que j'écoute sur Last.fm est archivé. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Enfin, je suppose qu'ils font des statistiques, mais peut-être qu'ils ont totalement. Peut-être qu'ils ont compilé. Il écoute du hard rock, c'est potentiellement un terroriste. C'est pour ça que j'ai pu aux États-Unis. Enfin, ça et parce que j'ai les cheveux longs. Ça fait déjà deux raisons d'être un terroriste. Alors, mais l'exemple que j'ai déjà donné lors de ma conférence l'année dernière, c'est que. Le département d'État américain a décidé de censurer MSN, le système de messagerie, à Cuba, en Libye, et puis deux autres pays qui sont sous le couvert d'un embargo. Pour les Cubains, c'est peut-être embêtant. Effectivement, il y a des gens qui... Bon, il y a quelqu'un au premier rang qui pense que ça rend service à Cuba, mais il faut savoir que, par exemple, Gmail est également bloqué. Donc tous les services de Google... peut-être. Enfin, tu pourras poser on pourra en parler tout à l'heure. J'ai prévu une demi-heure de troll sur le sujet. Donc, ça permet effectivement, encore une fois aussi, d'avoir le choix. Alors, en général, les services pour qu'ils fonctionnent permettent sont en général assez configurables. Maintenant. Je me suis retrouvé quelques fois, j'ai pas d'exemple précis en tête, à pas vraiment pouvoir faire ce que je veux. Et comme le service n'était pas sous mon contrôle, j'étais coincé. Alors c'est une question de liberté. Donc là, je suis à une install party autour de Linux et je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à quel point la liberté c'est important. Enfin, je peux, mais j'ai juste pas préparé de slide. Par exemple, si vous voulez avoir la liberté de faire votre intranet en no camel, vous pouvez. C'est aussi c'est surtout une question de connaissance. Et ça, c'est un point assez important. C'est que vous avez décidé de fonder votre société, vous ne voulez pas dépendre d'une société externe. Vous avez une idée de start-up géniale qui permet d'envoyer des messages de 150 caractères, soit 10 de plus que Twitter. Vous dites ça va révolutionner le monde. Je vous crois parfaitement. Et pour ça, il va falloir héberger votre service. Sans les connaissances que vous auriez pu avoir avec des gens qui ont décidé de s'auto-héberger, on se retrouve finalement à avoir un petit groupe de gens qui savent comment les choses fonctionnent, et vous êtes coincé. L'exemple typique, c'est la téléphonie. La téléphonie où la situation est vraiment un peu glauque, parce que les SS2, déjà les sociétés comme Orange, comme SFR, comme Bouygues, n'ont aucune compétence en interne. Ils font sous-traiter ça par des SS2I qui envoient leurs ingénieurs juniors, et une fois qu'ils sont formés, ils les envoient au Mexique, là où les clients sont prêts à payer plus cher. Résultat des courses, il n'y a pas grand monde qui sait comment fonctionne le réseau GSM, et les gens qui ont été aux conférences du 26 C3 en décembre pourront vous expliquer à quel point c'est une catastrophe à tous les points au niveau de la sécurité. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste le téléphone. C'est juste utilisé pour communiquer partout, pour les ambulances, etc. C'est pas comme si c'était vital. Et en fait, ma petite amie avait une expression très amusante vis-à-vis des geeks. Donc, au sens des geeks, des personnes qui s'y connaissent. Elle pensait que c'était des druides des temps modernes. Parce qu'avant, les druides centralisaient la formation sur la guérison, les plantes, etc. Et ben, maintenant, on ne sort plus dehors et on est là pour guérir les machines, pour savoir comment ça fonctionne et ce genre de choses. Et quelque part, on est une espèce de caste, pour reprendre ces termes, par rapport au Pékin moyen. Mais à côté de ça, c'est bien beau d'avoir les connaissances, mais ça se rattache également à toute une partie de l'idéal hacker, au sens... pas au sens pirate qui va essayer de pirater des trucs, plus au sens bidouilleur qui est que la formation doit être libre, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir expérimenter chez eux pour que tout le monde puisse être formé, pour que tout le monde puisse utiliser les services. Et puis la dernière raison pour s'auto-héberger, c'est parce que c'est quand même plus fun. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui trouvent fun de répondre à des courriers sur Gmail, mais je trouve que c'est plus amusant de monter son propre service plutôt que d'utiliser quelque chose de quelqu'un d'autre. On peut reprendre l'exemple de la cuisine et de la salade. Bon, moi j'aime pas faire la cuisine. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens, mais je connais des gens qui trouvent ça plus fun de faire la cuisine plutôt que de commander. Et c'est exactement dans ce genre d'optique. Alors bon, là je vous ai présenté un truc, ça a l'air d'être vachement trop bien, je vois carrément à vos yeux que vous êtes tous en train de vous dire « je vais rentrer chez moi, je vais m'auto-héberger », mais mon honnêteté profonde et le fait que j'ai encore quelques minutes à passer fait que je dois vous parler des problèmes. Alors il y a les problèmes qui sont plus ou moins supposés, donc on parle assez souvent des problèmes liés à l'écologie, de la consommation électrique, parce que au lieu, si on a chacun sa propre machine, il faut la construire, il faut l'alimenter, l'alimenter en général ça marche au courant. Et ce genre de choses. Bon, il y en a qui pédalent, mais quand tu pédales, ça fait encore du courant. Enfin, je pense. Sinon, tu as peut-être une invention vachement géniale. Je te conseille d'aller tout de suite fonder une boîte autour. Alors, en général, c'est réglé avec des serveurs basse consommation, comme par exemple celui-là. J'ai fait venir spécialement de l'autre bout de la salle pour pouvoir le montrer. Et en général, c'est aussi fait avec du matériel de récupération. Alors là, j'en ai pas, à part ce portable, mais bon. Ce qui fait qu'on arrive à pouvoir quand même diminuer très fortement son empreinte carbone ou quelle que soit la métrique utilisée. Et en général, les gens qui parlent de ça oublient quand même la problématique la plus importante, c'est que quand vous commencez à mettre tout un tas de serveurs les uns après les autres pour mutualiser, par exemple ce que fait Google, vous êtes obligé de climatiser le data center. Le climatiser, ça prend de l'énergie, et ça prend de l'énergie juste pour déplacer de la chaleur. Donc c'est quand même un peu de l'énergie gaspillée pour rien. Tandis que si vous prenez un serveur basse consommation, ou même un serveur pas basse consommation de récupération comme le portable de Nicolas, ça va faire gagner quelques dixièmes de degrés, vous n'auriez pas besoin d'une climatisation particulière. Voire même en hiver, ça peut vous permettre de réduire la facture de chauffage. Moi j'avais constaté que j'avais pris 1 degré avec ma machine, ce qui fait que je coupais le chauffage. Ce qui revient à faire une espèce de radiateur intelligent. Enfin, intelligent, si on veut. Et ensuite, la problématique de la sécurité. La problématique de la sécurité, c'est tout bêtement que les gens se disent « Si j'héberge chez moi, c'est pas aussi sécurisé que s'il y avait les super équipes de mon fournisseur qui vont s'occuper de ça. » Alors, déjà, petit A, on n'est pas dans les films, il n'y a pas toujours des super équipes de sysadmin. En général, il y a des mecs qui sont shootés au café et qui n'ont pas que ça à faire que de s'occuper de la sécurité. Parce que voilà, il faut faire tourner le business. Vous avez monté votre start-up, vous avez fait ça totalement à l'arrache. La moitié de vos gains provenaient de la machine à café. Maintenant, vous devez faire en sorte de gagner de l'argent pour payer les gens. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de la sécurité. C'est un fait. Malgré ça, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Alors, la première chose à voir, c'est que vos données, en fait, je suis désolé de le dire, ça intéresse personne. C'est tout con, hein. Mais personne ne va aller attaquer votre machine, parce qu'il y a des cibles beaucoup plus simples. Alors, quand on a une install party sur Linux, je vais pouvoir très amplement bâcher Microsoft. Mais si quelqu'un voulait attaquer une machine, il ne va pas attaquer un serveur que vous avez mis chez vous. Il va plutôt attaquer un des millions d'ordinateurs sous Windows dans le monde, parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a le fait que, comme chacun va avoir son serveur bidouillé comme il veut, c'est difficile d'industrialiser. Ce qui intéresse actuellement les pirates, c'est vraiment d'obtenir un grand nombre de machines pour pouvoir faire des choses comme envoyer beaucoup de spam, ou faire des attaques sur Amazon, sur les grosses boîtes. Passer du temps pour une machine alors qu'encore une fois on peut en obtenir 100 000, bah, c'est pas intéressant. Et donc au final, même si votre sécurité va pas être, est pas forcément faite par une équipe de pros, la cible est beaucoup moins intéressante, il y a donc beaucoup moins de risques. Le troisième point, c'est celui du coût. Alors le coût, on peut se dire, bah, Gmail c'est gratuit. Alors effectivement, Gmail c'est gratuit. Mais comme quelqu'un le faisait remarquer, c'est de savoir si vous êtes client de Google ou si vous êtes la marchandise. Et dans la mesure où vous ne payez pas, je ne pense pas que vous puissiez vous qualifier de client. Les véritables clients de Google, c'est les personnes qui font passer des publicités. Ce que Google vend, c'est le fait que vous regardiez ces publicités. Ce qui fait que finalement, vous n'êtes pas client, vous êtes marchandise. Donc effectivement, c'est beaucoup moins cher d'être une marchandise, effectivement. Je veux bien le reconnaître. À côté de ça, ça pose quand même des conflits d'intérêts. C'est si vous êtes, je sais pas comment vous traitez les marchandises que vous achetez, mais moi en général, je me préoccupe pas trop de leur bien-être. Hein. Je me préoccupe, si j'étais commercial, je me préoccuperais plus du client que de ce que je vends. Parce que ce que je vends, en général, il n'a pas le choix. Donc effectivement, bah, y a les conflits d'intérêts, ce que j'expliquais tout à l'heure avec Delicious, où le conflit entre moi, qui suis utilisateur, et la société qui a besoin de gagner de l'argent fait que moi, qui suis utilisateur, l'ai dans l'os. Et le problème, c'est que, quel que soit, en général, ils vont quand même essayer de garder un minimum leurs utilisateurs, mais à un moment, quand il y a un conflit, faut bien se rendre compte que c'est pas de vous, qui n'êtes pas client, que les choses vont s'orienter. Alors, en pratique, comment ça marche ? Alors, la première chose à faire, c'est déjà déterminer quels sont les services que vous voudriez auto-héberger. C'est bien beau de vouloir faire ça, mais peut-être que vous n'avez pas du tout de besoin, peut-être que vous n'avez pas le temps. Je ne prêche pas du tout ça. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir. Moi, je ne vais pas vous interdire, contrairement à d'autres. Alors, les services les plus évidents, c'est de mettre un site web, un blog, par exemple, quelque chose d'extrêmement critique envers un quelconque gouvernement. Alors, en France, on n'a pas trop de problèmes. Par contre, en Chine, en Tunisie, ça va, ça a été réglé depuis ce matin. Mais il y a bien quelques endroits dans le monde, voire même beaucoup d'endroits dans le monde où ça peut poser problème et où vous n'avez peut-être pas envie d'être censuré par le pouvoir en place. En général, ce que les gens font, c'est aussi le mail et la messagerie instantanée, principalement parce que c'est des choses que tout le monde utilise et que ça permet d'avoir des emails rigolos comme Toto at mon nom de domaine, comme Nicolas D at mon nom de domaine, etc. pour se faire passer pour des gens. Quand on a une association et qu'on a l'email président at association, c'est toujours beaucoup plus classe. Et sinon, vous avez les services un peu plus annexes qui vont parler principalement aux techniciens, donc tout ce qui est transfert de fichiers. Si tout d'un coup vous avez envie de transférer encore une fois les vidéos de cette conférence, vous pouvez installer un serveur FTP. Vous pouvez même demander aux gens du CRANS comment ils font. Vous avez tout ce qui est SSH pour accéder à distance. Vous avez toute la partie gestion de domaine et finalement, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Moi-même, j'ai déjà fait ma propre radio pour ne pas me trimballer mes fichiers musicaux au boulot, pour pouvoir écouter rire et chansons malgré les systèmes de sécurité que j'avais mis en place pour le client. Parce que bon, c'est bien beau de les mettre en place, mais faut pas non plus que ça me gêne. Faire des choses plus intéressantes, comme de la voix sur IP. Alors vous pouvez utiliser effectivement Skype ou des choses comme ça. Mais ça permet d'économiser sur votre facture France Télécom et point bonus de le mettre sur le CV, ce qui est quand même très appréciable. Et donc le point le plus important, c'est de déterminer quels sont vos besoins. Si vous n'en avez pas, merci d'avoir écouté, mais je pense que la présentation n'est pas forcément pour vous. Alors en général, les gens commencent par un nom de domaine. Alors le nom de domaine, c'est 12 euros par an, j'ai encore été vérifié hier, s'ils n'ont pas augmenté le tarif durant la nuit. 12 euros par an pour avoir, qui est-ce que je vais choisir, pour avoir apf.org par exemple, et hop, il est pris. Bon, pour ne pas l'avoir. Il vous faut une connexion Internet, ça me semble quand même l'évidence. Alors une connexion Internet, je précise, une connexion Internet, vous marquez, il n'y a pas marqué Internet par Orange. Il y a quelques conditions, il faut déjà avoir une IP routable, ce qui exclut toutes les adresses en 10 point quelque chose, 192 point quelque chose, 176 point quelque chose. Encore une fois, n'hésitez pas à les demander aux gens du CRANS exactement ce qu'ils veulent dire. Il faut aussi possible avoir une IP fixe. Alors ça commence déjà à restreindre beaucoup les fournisseurs d'accès. Et si possible, pas de blocage, ce qui restreint d'autant plus le choix. Alors, en fonction de ce que vous voulez voir, le blocage peut être peut ne pas poser problème. En général, les fournisseurs bloquent l'envoi de mail en direct, mais certains proposent une petite case à cocher, certains ne la proposent pas. Si vous ne voulez pas envoyer de mail, ça peut ne pas gêner. Mais d'une manière générale, c'est mieux d'avoir un accès sans blocage, avec une IP fixe et une IP routable, que tout le contraire. En fait, si vous n'avez pas d'IP routable, c'est déjà foutu. Alors, c'est aussi bien pratique d'avoir une connexion fiable, parce que mine de rien, si ça coupe 6 heures par jour, c'est pas la peine. Effectivement, je connais des gens qui voulaient monter leur propre serveur à la maison en Mongolie. C'était pas ça, quoi. J'ai rien contre le pays ou contre leur fournisseur d'accès, mais si le service n'est pas fiable, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous allez être extrêmement frustré. Alors en France, ça va, on n'a pas de problème, mais encore une fois, il n'y a pas que la France là. J'ai des visées très internationales là, quand je fais des conférences. Alors il faut avoir un PC. Donc un PC, c'est soit personal computer, encore une fois, tout ce qu'il y a de plus basique, vous pouvez prendre une tour, soit un truc gros comme celle qui est là-bas, soit quelque chose de plus petit comme un shuttle, que je n'ai pas transporté vu qu'il est le mien est justement branché. Soit vous pouvez utiliser encore une fois ceci, c'est du plug computing. En fait, c'est un PC, c'est pas vraiment un PC dans le sens où il y a une architecture différente, mais le propriétaire pourra vous en parler tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que ça se branche juste à côté de la prise, c'est silencieux, ça fait pas de bruit. Alors justement, ça fait partie des choses auxquelles il faut faire gaffe. C'est voir que si votre machine est allumée en permanence pour proposer un site web, c'est bien quand elle fait pas de bruit. C'est idiot, au début on se dit « oh ça va ». Ensuite, on s'aperçoit que ça commence à faire un peu plus de bruit que le frigo, on commence à se demander pourquoi on dort pas la nuit, ce genre de choses. Donc on commence à se demander pourquoi sa femme, son chien et tout le monde vous a quitté, et pourquoi est-ce que les voisins commencent à se plaindre. Donc il faut quelque chose de pas très bruyant. Je vous le conseille. Alors idéalement, c'est bien aussi que ce soit pour de la basse consommation, tout simplement parce que ça coûte moins cher, hein, faut pas déconner. Le sort des Esquimaux dans la banquise au fond, je m'en fous un peu, ma facture moins. Et idéalement, d'un point de vue pratique, il faut avoir un accès à Internet, Ethernet, pour pouvoir le brancher sur le réseau. Parce que j'ai testé pour vous le Wi-Fi, et ça marche pas. Vous êtes obligé de me croire sur parole, ça coupe régulièrement, c'est un peu le bordel. Au niveau du débit, c'est tout pourri. Donc je vous conseille de l'Ethernet et du câble, tout ce qui est le plus classique. Et idéalement, il ne suffit pas juste de brancher, il faut mettre un OS dessus. Alors voilà quoi. On a une install party autour de Linux, donc je vous conseille au moins de mettre un système Unix. Alors il y a des gens qui essayent avec Windows. On m'a dit qu'ils ont eu des problèmes, mais ils ont essayé. Ça peut se faire, hein. Je connaissais des gens qui continuaient à télécharger leurs vidéos en ByteTorrent depuis le boulot avec leur serveur Windows, et qui utilisaient les mêmes méthodes que moi pour contourner le firewall que j'avais mis en place. Mais bon, j'allais pas trop râler parce que moi je le faisais. D'une manière générale, je conseille n'importe quelle distribution Linux, vu que si vous êtes à l'aise, ou si vous préférez une distribution BSD, moi ça me va parfaitement. Et juste pour terminer, parce que je vois qu'il y a il y a des bras qui s'agitent là-bas. Non, d'accord, ok. C'est pas grave, j'ai quand même terminé. Quelques conseils. En général, c'est assez pratique de chercher à avoir un minimum de redondance via la collaboration. Alors la collaboration, c'est pas au sens français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est aller voir vos amis et leur dire moi j'héberge une partie de ton DNS et toi t'héberges le mien. Comme ça, quand mon serveur est tombé, le tien peut répondre. Il n'y a plus qu'à espérer que les deux ne soient pas dans le même appartement, comme moi je fais. Parce que là, ça marche pas bien. En général, les gens sont assez contents d'aider d'autres personnes qui font de l'auto-hébergement. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller de vous retourner vers les mailing lists, les newsgroups ou whatever du CRANS pour ça. Idéalement, c'est aussi bien de partager des expériences. Je rappelle qu'un des buts, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette connaissance pour que ce ne soit pas restreint, pour que finalement le futur de l'Internet soit entre les mains de tout le monde, et pas juste des quelques personnes qui ont passé des heures à gratte à lire de la doc. Et si vous avez la moindre question sur le sujet, il y a un site qui s'appelle autohébergement.fr. Donc vous avez un forum, vous avez un salon de discussion, Et vous avez un système qui s'appelle PHPQA, qui ressemble à Stack Overflow pour les gens qui connaissent, où les gens peuvent poser des questions et peuvent y répondre. Alors le problème, c'est que ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 5 questions. Donc, ça va, vous pouvez faire le tour complet. Et il y a également un wiki sur lequel vous pouvez noter des how-to et ce genre de choses. Donc si les gens ont une question, une seule, j'ai pas mis de S, merci de ne pas hésiter à la poser pour que Nicolas puisse vous amener le micro. Je suis sûr que quelqu'un a une question, mais il n'ose pas la poser. Je vois Chico qui sourit.
Ton site auto-hébergement, c'est hébergé où ?
Ah, c'est pas mon site.
Oui, mais enfin, le site que tu as cité, quoi.
J'en ai pas la moindre idée.
C'est l'auto-hébergement, moi ?
Je pense que s'ils sont cohérents, ça devrait l'être. Maintenant, tu peux prendre un accès à Internet, il doit y en avoir quelque part dans les ondes. Je suis sûr que tu dois avoir un N900 comme tout le monde pour regarder. On peut chercher tout à l'heure, mais à mon avis, ça doit être... Enfin, je pense que ça doit sans doute être auto-hébergé parce que ce serait cohérent, mais comme c'est un site d'agroup, il n'y a peut-être pas quelqu'un qui veut le faire pour lui. Je pense dans tous les cas que c'est pas hébergé sur un mutualisé. Je sais pas. Si quelqu'un a une autre question, parce que je peux répéter 5 fois que je sais pas, ça me fera pas plus savoir.
Moi j'ai une question, c'est à propos de cet appareil, ce serveur basse consommation.
Oui.
Je connaissais pas, et en fait c'est à quoi comme puissance, enfin, ça permet de...
Alors c'est une bonne question, mais pour ça je vais devoir me déplacer et filer le micro à quelqu'un d'autre.
Des petits serveurs comme ça, c'est une puce ARM en fait. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir mettre dans les netbooks. Donc ça tourne à 1,2 GHz, je crois. C'est très largement suffisant pour faire de l'hébergement de services de base, internet, des mails, du web. Bon, après, il faut faire attention parce que celui-là, par exemple, a une vague tendance à chauffer un peu trop et à finir par griller. Mais...
Et en taille de disque dur et le prix ?
Alors, en fait, donc personnellement, moi, j'utilise donc ce Unshiva plug là pour faire de la redondance sur ce que j'héberge chez OVH. En fait, ce que tu mets, c'est une carte mémoire SD dedans. Donc, c'est la taille de ta carte SD que tu as. Tu as quelque chose comme 256 mégas de flash dessus, quoi, pour mettre le système. Bon, donc, c'est tout petit, quoi. C'est vraiment un système embarqué. Ça suffit pour faire tourner un petit serveur web, avoir un serveur mail, des DNS, etc. Quoi. Alors, effectivement, c'est possible d'utiliser directement des produits type routeur, je sais pas, par exemple, un routeur Linksys. C'est à peu près le même type de caractéristiques, peut-être un peu moins puissant. Et au final, on va pouvoir mettre le même genre de système dessus et après avoir notre le système auto-hébergé. Ce qui...
Non, moi, j'utilise un bête PC Shuttle, donc je ne peux pas répondre aux questions. Mais, est-ce que ça a répondu à la question ?
Sinon, le site auto-hébergement est derrière une Freebox.
Voilà. Donc il est effectivement auto-hébergé. Enfin, en supposant qu'ils aient mis la Freebox chez eux. Bien, donc si personne n'a de questions, je peux juste dire que les gens peuvent me contacter soit sur IRC, soit par email, et afficher que la présentation est réutilisable, même s'il n'y a strictement rien à réutiliser. Et que les photos venaient de ces deux personnes que j'ai trouvées sur Flickr sous licence CC BY-SA. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.